Je t'avais dit de pas emmener le pote à la piscine, il est pas étanche. La Cité du Local, on l'écoutera tout à l'heure en podcast.
Le monde qui nous entoure est fait de couleurs, d'odeurs, mais aussi de sons, et on n'y prête pas tellement attention parce que ce tout nous est familier. Tous ensemble, nous n'avons pas tous la même perception, notre manière de l'appréhender. Justement, Alexandra Brun-Duval de l'association Lecture Labiale et Plus à Laval est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra.
Bonjour Margot.
Vous allez aujourd'hui nous parler de l'association dont vous êtes membre et des événements organisés tout au long de l'année, autour de la lecture labiale. Et ça va même au-delà, on le verra dans quelques instants. Dans cette émission, nous reviendrons également sur la journée d'hier à la rencontre de Gabriel Bordier à Château-Gontier, marcheur athlétique de haut niveau, même champion de France on peut le dire, qui est venu rencontrer les jeunes de l'IME de Château-Gontier pour leur présenter sa pratique et son parcours. C'est un beau moment de partage à laquelle on a pu assister et que l'on va vous partager en deuxième partie d'émission. Ça sera juste avant de terminer, aux côtés de Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir de la Mayenne, qui toutes les deux semaines nous propose une chronique qui nous informe et nous sensibilise surtout aux bons réflexes en tant que consommateurs. Avant ce programme, chers auditeurs, vous en avez l'habitude, on fait un point rapide sur les actualités locales. Et on commence à Laval avec l'association Solidarity Maroc qui continue d'acheminer de l'aide dans la province de Taroudan, particulièrement touchée par le séisme meurtrier du 8 septembre 2023. Pour poursuivre son action, l'association en appelle aux volontaires parce que oui, le soutien ne s'est pas arrêté depuis le séisme, notamment avec une caravane médicale présente 3 jours sur place avec un besoin important de pour répondre en fait à un besoin important de soins post-traumatiques. L'association souhaite aujourd'hui monter des projets sur place pour donner du sens à la vie des personnes qui ont survécu et ont donc besoin de nouveaux volontaires. Si vous souhaitez vous impliquer dans les projets de Solidarity Maroc, avec une réunion d'information est organisée vendredi 27 octobre à 19h à la Salle des Vignes, au 169 avenue Pierre de Coubertin, à Laval. Et on continue à la Tour Morillon. Le premier composteur collectif a été inauguré à Château-Gontier lundi. Les habitants sont aujourd'hui prêts à le tester. Ce dispositif est testé donc auprès des habitants du logement social dans le cadre d'allègement des poubelles sur le territoire. Concrètement, 4 conteneurs en bois ont pris place au pied de la tour, un bac matière sèche, un composteur et 2 bacs de maturation. À noter qu'un an de maturation est nécessaire pour que le compost soit utilisable à ce moment-là et les habitants se réuniront pour se le partager évidemment. Pour terminer ce point sur les actualités locales, une information un peu plus insolite mais sympathique, à Château-Gontier, un film d'horreur sera diffusé depuis les bassins de la piscine. Le film en question est Crawl, sorti en 2019 et sera diffusé le 26 octobre à l'espace aquatique de Château-Gontier à 19h. C'est l'association Atmosphère 53 qui est aux manettes techniques de la séance. Le tarif de la séance est le tarif habituel d'une entrée à la piscine. Et attention aux plus jeunes, le film est interdit au moins de 12 ans. Bonjour Alexandra Brun-Duval, vous êtes donc membre active de l'association Lecture Labiale et Plus. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous présenter l'association ?
Alors Lecture Labiale et Plus est une jeune association. On vient juste de fêter nos 2 ans sur la création en fait de la section mayennaise. Lecture Labiale et Plus est une section de l'association nationale ARDDS, donc Association de Réhabilitation et de Défense des Devenus Sourds. Et cette association nationale, en fait, se décline soit par département, soit par région, selon la volonté, en fait, par des acteurs de terrain qui souhaitent créer quelque chose à destination des personnes sourdes. On dit malentendantes aussi. Après, distinction sourde-malentendante, des personnes la font, mais sinon, sourde-malentendant veut bien dire la même chose. On est malentendant à partir du moment où on a un degré de surdité. qui fait que toute compréhension, notamment de la parole, devient problématique pour la communication, qu'elle soit au quotidien, qu'elle soit professionnelle et qu'elle soit dans des situations inattendues comme les situations prévues et auxquelles on peut plus s'attendre.
Donc justement, vous vous adressez aux personnes porteuses de ce handicap, mais pas seulement, vous adressez en fait à tout le monde, puisqu'on a pu le dire tout à l'heure toutes les deux, le mieux vivre ensemble, c'est aussi se sentir concerné par les difficultés ou les besoins de tous. Et donc vous organisez des actions, des événements plusieurs fois dans l'année. Il y en a eu une première en février. Et une seconde arrive le 7 novembre, c'est une réunion publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le thème et qui sera présent pour animer cette réunion ?
Alors en fait, dans le souhait de proposer justement, alors comme vous dites, pour les personnes aussi bien concernées par le handicap, et on dit bien un mot handicap parce que c'est une gêne réelle dans la vie de tous les jours, et il a le tort, ce handicap, d'être invisible, c'est-à-dire que comme l'aphasie, comme des maladies neurologiques, elle ne se voit pas, la malentendance ne se voit pas, à part éventuellement par des appareils en contour d'oreille ou des implants. Mais encore faut-il aller chercher l'info ou y faire attention à ces petits objets placés sur la tête ou derrière les oreilles. Et la surdité est du coup d'autant plus un handicap invisible qu'elle n'est pas rétabli par les appareillages, c'est-à-dire qu'une personne appareillée n'entendra de toute façon jamais plus comme avant avec ses oreilles naturelles et n'entendra donc jamais plus comme les autres personnes pour lesquelles l'audition va bien et qui ne sont pas appareillées. Et ça, on ne l'imagine pas du tout. Donc le but, c'est effectivement à la fois par l'association d'apporter alors des ateliers de lecture labiale, des temps de rencontre, soit tout à fait informel, soit formel, pour répondre à des besoins, des envies, mais aussi de pouvoir s'ouvrir sur l'entourage des personnes ou sur des personnes qui ne sont ni concernées pour elles ni pour leur entourage, mais qui sont intéressées par la question. On a dans l'association notamment notre secrétaire qui n'est pas malentendante, qui par contre porte vraiment une attention spécifique au monde de la surdité et puis au quotidien des personnes sourdes malentendantes.
D'ailleurs, on utilise le terme depuis le début de cette émission de lecture labiale, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots ?
Alors, la lecture labiale, c'est l'habileté à pouvoir prendre les indices sur le visage, pas seulement sur les lèvres, mais les indices sur le visage qui vont aider à comprendre ce que l'on perçoit en auditif, donc par les oreilles ou les appareils. Et lecture labiale, alors oui, il y a les premiers indices sur la bouche, la forme de la bouche, la forme des lèvres, leur position, leur étirement, l'ouverture de la bouche, etc. Parfois on aperçoit la langue, mais en fait l'ensemble du visage compte aussi. Les joues, le menton, les yeux donnent plein d'indices extra-verbaux, en fait, des indices en dehors des mots, en dehors de la parole, mais qui nous aident à la comprendre. Donc ça, il y a des personnes qui, notamment dans les personnes devenues sourdes, le développent sans se rendre compte, mais qui ont très bien vu avec la Covid que le port des masques les gênait énormément, donc que leur habileté était bien présente, et d'autres qui ne la développent pas forcément cette habileté parce que c'est loin d'être facile en fait. Donc nous, on propose des ateliers pour essayer d'apprendre. Alors on n'est pas très nombreux, ce sont des ateliers qui ont lieu une fois par semaine, tantôt le mardi à 18h15, tantôt la semaine d'après, le vendredi à 16h15. On essaye de panacher pour la disponibilité des personnes en activité ou pas. Et chaque atelier est animé par une orthophoniste que l'association paye du coup pour venir intervenir. Et dans les ateliers, on est 3 quand il n'y a vraiment pas grand monde, jusqu'à 6, maximum 7. On s'est fixé une base maximale de 10 personnes parce qu'après ça devient vraiment compliqué à gérer et pour l'orthophoniste qui anime et puis même pour les participants. Ça génère beaucoup de bruit et encore plus d'efforts de concentration.
Des personnes de tout âge sont conviées éventuellement à pouvoir assister à ces réunions, à ces ateliers ?
Complètement. Parce que on va le voir de plus en plus dans les années à venir. De toute façon, les personnes malentendantes ne sont plus que les personnes, comme on dit, presbyacousiques, qui perdent l'audition de façon normale, entre guillemets, avec le vieillissement normal. Mais avec le bruit de plus en plus envahissant, de plus en plus fort et de nature aussi plus blessante pour l'oreille, on a des personnes qui deviennent malentendantes vraiment plus tôt. Donc oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est aussi ouvert à tout le monde, toute tranche d'âge, dans la mesure où ça peut être un parent accompagnant son enfant, comme un enfant accompagnant son parent de 60-70 ans, pour aussi un petit peu savoir ben, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme particularité, quelles sont les meilleures conduites à tenir pour faciliter la communication, la compréhension, sans tomber dans les caricatures des sketchs. « Hein, quoi ? Mais tu m'énerves, j'en ai marre de répéter. » Ben oui, mais bon. C'est aussi nécessaire de répéter. Après, il y a aussi les meilleures conduites possibles pour répéter ou pour s'adresser à une personne qui n'entend pas. Ce sont des choses qu'on aborde. Alors, les personnes malentendantes et sourdes, forcément, elles le savent, hein, comment il faut leur parler. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est aussi pouvoir vraiment diffuser ce message de, comme vous disiez, bien vivre ensemble, c'est aussi essayer de prendre en compte chaque particularité. Alors, chaque particularité, en tout cas, les particularités de l'autre. Un non-voyant, on va évidemment pas lui demander de lire notre agenda sous texte. Ben, un sourd, ça va être très compliqué de lui demander de prendre la communication téléphonique. Enfin, certains peuvent, mais d'autres beaucoup moins.
Justement, vous en parliez tout à l'heure. Finalement, c'est au quotidien, donc c'est dans le monde professionnel, c'est à la maison, c'est dans la rue, c'est dans, en fait, dans tout espace et puis dans tout, toute partie de la vie quotidienne des personnes, qu'il y a des ajustements ou en tout cas la nécessité d'une adaptation aussi du lieu. Vous parliez tout à l'heure du lieu de travail. C'est vrai que selon les professions, il y a sans doute la personne a des droits. Probablement, oui. Et vous accompagnez également là-dessus pour les informer, pour les guider sur éventuellement les structures ou les droits dont elles peuvent bénéficier. Oui.
À hauteur de ce qu'on connaît et pour lequel on a les informations et les sources de renseignements possibles, oui, nous ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir aider des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles parce qu'elles ne savent pas vers qui se tourner ou ce qu'elles peuvent demander, ce à quoi elles ont droit. Et c'est oui, pouvoir dire, nous, il nous semble que, ou alors, des fois, on sait, donc on dit, contactez effectivement telle institution ou tel centre, ils sauront vous accompagner pour la démarche d'obtention de ceci ou cela. Oui, c'est ça. On essaye de guider quand il y a un besoin ou de répondre si on sait répondre d'emblée. Mais en tout cas, on se propose d'être là pour aider.
On parlait donc tout à l'heure de la prochaine réunion qui a lieu le 7 novembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Il y aura, je crois, elle sera en présence d'une ergothérapeute.
Oui. On a sollicité le CERTA d'Angers, qui est le Centre d'évaluation et de rééducation des troubles de l'audition et de la basse vision. Mais bon, voilà, cette deuxième partie nous concerne moins. Et ce centre à Angers est vraiment un centre pluridisciplinaire qui prend très bien en charge la surdité et la personne qui est porteuse de surdité et qui offre dans son panel de professionnels l'ORL, mais des orthophonistes, assistantes sociales, ergothérapeutes et qui permettent un accompagnement optimisé en fait pour une meilleure vie en tant que personne sourde dans le monde actuel. Et là, on a souhaité faire intervenir l'ergothérapeute pour qu'elle présente tous les dispositifs qu'un malentendant, qu'il soit appareillé avec un contour d'oreille ou un appareil intra-auriculaire, donc dans le conduit auditif, ou une personne implantée qui, elle, a subi une intervention chirurgicale pour avoir un dispositif dans l'oreille interne, puis sous la peau du crâne, puis le dispositif après relié par aimant avec un dispositif contour d'oreille comme petit processeur aussi. En tout cas, que ces personnes-là puissent utiliser ces outils qui sont maintenant tous des outils numériques aussi, pour recevoir mieux l'information sonore. Donc ça va de certaines applications du smartphone qui permettent de se connecter aux appels téléphoniques de son téléphone, de se connecter au Bluetooth de sa voiture et d'avoir la radio directement dans l'appareil auditif. Sur Laval, l'Aglo aussi développe ce type de connectivité. On connaissait bien avant les boucles à induction magnétique qui diminuent un petit peu moins maintenant que certains commerces ou services ont, mais très souvent pas forcément activés. C'est-à-dire qu'ils ont le matériel de la boucle dans un carton au pied du bureau, mais n'ont pas fait l'effort de l'installer, de voir comment ça fonctionnait. Donc, au final, une personne malentendante qui en a besoin, ça ne va pas l'aider.
C'est déterminant au quotidien, on le rappelle, hein, voilà. Comme on le disait tout à l'heure.
Et donc, Laval Agglo développe un système d'utilisation pour les salles publiques, comme l'auditorium au 40, qui est équipé d'un système mobile Connect, qui, a priori, si on a bien compris, va aussi se généraliser à d'autres endroits de Laval. Mais ces applications-là, enfin, ce n'est pas des applications, ce sont des systèmes de connectivité, ils sont loin d'être simples. Donc, par exemple, nous aussi, on essaye de travailler depuis le mois de juin avec M. Bichara, qui est le responsable technique sur le 40, pour trouver la meilleure façon d'expliquer aux gens comment ils peuvent se connecter, parce que ça demande aussi une légère technicité de manipulation du numérique pour réussir à s'y retrouver entre un smartphone, la connectivité, son appareil. Et là, nous, on est très contents dans l'association d'avoir des audioprothésistes. Alors, d'une part, parce qu'ils nous soutiennent financièrement beaucoup et qu'ils reconnaissent notre intérêt public, j'ai envie de dire. Et d'autre part, parce qu'il y a aussi une des audioprothésistes qui s'investit beaucoup justement pour nous aider à faire avancer cette prise de conscience de l'importance de pouvoir accompagner les personnes et pas juste dire oui, il y a une boucle magnétique ou bah oui, il y a l'application. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, beaucoup ne sauront pas s'en servir une fois qu'ils seront sur place. Et nous, de notre côté, on découvre à quel point c'est complexe et qu'il faut que les téléphones portables que les personnes ont, même si c'est un smartphone, il faut qu'elles aient un certain niveau de technicité, que ce ne soit pas des modèles bas de gamme. Ensuite, il faut savoir aller naviguer dedans. Et puis, même sur des portables ou des smartphones haut de gamme, il faut encore certains dispositifs que après les audioprothésistes actives, enfin c'est complexe et c'est vrai que là on se dit pouvoir être présent, pouvoir faire les choses en groupe, se partager les infos, faire des essais, c'est aussi beaucoup plus facile et après on peut transmettre cette aide-là et ce savoir-là quoi.
La sensibilisation, la communication, le partage et le faire ensemble, parce que comme vous le dites, des fois c'est un peu laborieux sur certains points. Il y a encore du chemin à parcourir, je pense, pour que ce soit plus accessible et plus facile pour tous. Donc cette réunion qui a lieu le 7 novembre, elle a lieu où et à quelle heure?
Alors elle aura lieu à 18h30. On a prévu une intervention d'une heure, donc 18h30 à 19h30. Et ce sera dans une salle à l'étage de la maison de quartier d'Avenir.
Si des personnes souhaitent prendre des informations auprès de vous, est-ce qu'ils peuvent vous contacter peut-être?
Alors préférentiellement par mail à l'adresse suivante, donc c'est lecturelabiale53, tout en attaché, minuscule, @gmail.com. On a un numéro de téléphone que je ne connais plus par
On le mettra sur notre site internet. Vous pourrez retrouver sur le podcast de cette émission, chers auditeurs, ou sur votre site internet. Je pense qu'il est indiqué également.
Alors, là où c'est un peu compliqué, nous n'avons pas encore créé de site internet propre. On passe par le site ARDDS, le site national. Et une fois qu'on est sur le site de l'ARDDS, on peut choisir ses sections. On trouve la section 53. Et dedans, on a notre actualité. Normalement, la fiche a bien été chargée sur notre page d'actualité.
Donc, sur le site de la RDDS, on peut retrouver des informations concernant donc, l'association Lecture Labiale du département de la Mayenne ou alors à l'adresse mail que vous nous avez, citée auparavant. Merci Alexandra d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé votre connaissance et de nous aider à être aussi nous plus sensibles à cette situation. Chers auditeurs, on se retrouve dans quelques instants. Je vous propose une petite pause musicale avec Phoenix et son titre Litsmenia.
Looking could see it grow, like a rhino. Not easily offended, not hard to let it go. From a mess to the masses.
À Château-Gontier, malgré la pluie, les jeunes de l'IME de Château-Gontier justement se sont rendus au stade pour rencontrer Gabriel Bordier, marcheur athlétique, champion de France et mayennais. Un beau moment d'échange et de partage, mais surtout de découverte de cette pratique sportive moins connue ou du moins moins expérimentée.
J'ai commencé les compétitions pareil quand j'étais petit, je faisais un peu de tout et puis après dans mon club j'ai essayé la marche, j'ai tout de suite bien aimé. On fait des distances un petit peu plus courtes, quand on commence on fait du 1000 mètres par exemple, et puis après du 2000, du 3000, du 5000 mètres, et puis jusqu'au 20 km aujourd'hui que je fais. Et puis les compétitions du département, après les compétitions régionales, jusqu'au championnat de France que j'ai fait quand j'étais un peu plus grand, et puis là les dernières compétitions que j'ai pu faire c'était les championnats du monde cet été qui étaient à Budapest, c'est en Hongrie qui est un petit peu plus à l'est de la France. Et aussi les Jeux Olympiques qui étaient au Japon il y a quelques années, en 2021 déjà. Le but c'est de vous partager un petit peu toutes mes expériences, de répondre à vos questions. Et puis une fois qu'on aura répondu à pas mal de questions, on essaiera un petit peu d'aller marcher et que je vous apprenne un petit peu ce que c'est. Si ça vous va ?
Ouais.
Alors je m'appelle Véronique Poirier, je suis directrice adjointe du dispositif enfance de Château-Gontier pour l'ADAPEI 53. Aujourd'hui on a invité un grand sportif, donc Gabriel Bordier, à nous parler de son sport, la marche athlétique, dans le cadre de notre thématique de l'année 2023-2024 sur les Jeux Olympiques. Alors ici ils ont entre 16 et 20 ans.
Vous avez déjà organisé des choses sur d'autres thématiques un petit peu similaires ?
Alors en fait, l'année dernière, on a travaillé sur le thème du cirque et du coup, on a fait venir une troupe de cirque et on a monté un grand spectacle avec les jeunes. Du coup, on a eu une représentation qui a pu avoir lieu le 13 juillet au soir avec les familles. On avait 500 spectateurs, c'était très chouette. Et là, la semaine dernière, on a eu vendredi Clément Bourgeois qui est venu et qui nous a aussi parlé de son sport, la planche à voile, et qui l'a fait découvrir aux jeunes. C'était aussi une belle rencontre.
Super. Et après, on essaye d'accélérer avec les bras.
Allez, on accélère, allez, 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 allez.
Allez, top.
Ouais. Super Luna, elle
Luna,
super bien.
Développé une
top.
Ouais, c'est bien, c'est
je m'appelle Laurent Jolan, donc je suis professeur de PS sur l'IME de Laval et Château-Gontier.
Donc là aujourd'hui ils vont découvrir l'athlétisme, mais c'est des choses qu'ils ont déjà pu découvrir avec vous auparavant sans doute.
Alors voilà, tout à fait, on fait des cycles tous les ans d'athlétisme là sur 2 mois environ, et puis on conclut un petit peu ce cycle là par une compétition entre du coup les 3e de la Mayenne. Voilà, donc toute une journée avec différentes épreuves, hein, de la course de vitesse, en fait du saut en longueur, saut en hauteur et lancer de vortex.
Accueillir aujourd'hui Gabriel Bordier, c'est un bel événement pour les jeunes.
Oui, tout à fait, c'est une chance hein, qu'il ait pu venir aujourd'hui ici avec les jeunes. Là, il a répondu tout de suite présent et donc voilà, c'est une première expérience pour nos jeunes.
À vos marques, prêts, partez.
Bonjour, Gabriel Bordier, marcheur de haut niveau mayennais.
Est-ce que vous intervenez souvent au milieu scolaire comme ça ?
Souvent, pas forcément. Plusieurs fois dans l'année, oui. J'essaye, dès que mon agenda le permet, de partager mon temps avec les élèves et puis de partager mon expérience du sport, du haut niveau, mon double cursus professionnel et sportif, et leur montrer qu'on peut faire plein de choses et de belles choses dans le sport. Ouais. Puis en parallèle de mon activité de sportif de haut niveau, je suis également interne en médecine au CHU d'Angers en rhumatologie. Ouais.
Donc ça doit être un planning particulièrement chargé.
J'y arrive à avoir des aménagements grâce à ma fédération, à la région et tous mes partenaires qui me permettent de me détacher de mon temps de travail, d'avoir ce qu'on appelle une CIP, un contrat d'insertion professionnelle, qui me détache de 30% de mon temps de travail pour pouvoir me dégager du temps d'entraînement et effectivement concilier les deux, même si ça fait quand même des semaines bien chargées. Ouais. Forcément, il y a des performances qu'on ne se voit pas atteindre quand on commence. Moi, j'ai vraiment pris. Je vis le sport comme une passion et je fais ça pour me faire plaisir. Et les chronos arrivent au fur et à mesure s'ils doivent arriver. Forcément, quand on bat son record, on est toujours plus content et plus heureux. Mais vu que je prends le sport comme une passion, je prends les choses comme elles viennent et je me prends pas la tête de ce côté-là.
Hein. Et donc, transmettre justement, c'est important pour vous auprès des jeunes ?
Oui, c'est ça. C'est montrer qu'on peut tout faire, qu'on peut faire. Du sport de haut niveau, même quand on est mayennais, peu importe, tout le monde peut faire du sport de haut niveau à partir du moment où il s'en donne les moyens. C'est vraiment ce que je veux montrer aux gens. Enfin, en athlétisme, on est de plus en plus à avoir des doubles cursus et de le faire très bien. Ouais.
Et pour terminer, comment ça s'est passé justement cette première expérience avec les jeunes de Château-Gontier ici ?
Ça s'est très bien passé, ils étaient tous très intéressés. Toujours des questions intéressantes et pertinentes. Et puis, sur l'initiation, ils se sentirent vraiment très très bien pour une première fois, parce que c'est pas quelque chose qu'on essaye, même quand on fait des initiations à l'athlétisme en club. Donc non, ils s'en sont très bien sortis et c'était très agréable et très sympa. Hein.
Lucie, Adeline, Luna et Luca.
Moi, j'ai bien aimé ce qu'il fait, Gabriel.
Moi aussi, j'ai bien aimé de le rencontrer, de rencontrer des personnes comme ça, surtout pour leur montrer son sport. Il faut apprendre à marcher comme lui. Parce que c'est pas facile, il faut apprendre à être comme lui, en fait.
Je trouve que c'est trop stylé.
Merci, Gabriel.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Avant de retrouver la chronique de l'UFC Que Choisir et donc Jean-Michel Guinedo qui nous informe et nous sensibilise pour que nous puissions être et devenir des consommateurs plus alertes, on écoute le Vercors de Théo Didier.
À la dérive, viens faire un tour à Auprive. Si tu te baignes à Tahiti, tu goûteras au paradis. Passe boire un verre à Léoncelle, viens faire la fête après. Et pour décuver mon vieux, viens faire une rando à Vassieux.
Alors pour la fête, ok, mais la rando, faut voir.
Bienvenue dans le Vercors, ici on résiste encore.
reste du monde, l'autre côté du tunnel. Je reste dans mon coin, près de la chapelle. À Saint-Martin, loin de l'Oruel. Façon tout est maudit après Rancurel. Dans ce nombril très très loin de Paris. Soirée de pieds nus sur le col de Carrie. Je viens de Saint-Just dont je fume le temps. Sous la lune belle comme les filles de Saint-Jean. Je veux la blanche et la verte, je parle des cascades. De mes montagnes, j'ai l'accent et le verbe. Et je pense qu'entre elles, elles s'engueulent sec. Quand on se castagne, je ferai comme mes ancêtres. Je la protégerai jusqu'à ce que je calme. J'y ferai naître des rêves et j'emmerde ceux qui nous dégradent. Faites du bruit pour mes frères, faites du bruit pour mes sœurs. Faites du bruit pour notre terre, faites du bruit pour notre cœur.
Bienvenue dans le Vercors. Ici on résiste encore. On chantera toujours plus fort pour nos montagnes et ses trésors. Cachés dans les contreforts, la rivière, la faune et la flore. Façonne un décor qui te fera perdre le nord.
Y'a pas besoin du bout du monde, des fois tu sais. Juste à côté, pas besoin de traverser. Océan, vallée, des vallées justes et décidées. Déjà en bas de chez toi, en bas de chez moi, le Vercors t'a proposé une pause de toute beauté. Le bonheur, cette vérité s'impose à tous les vents, comme si t'étais tout flambant. Ouvre les yeux comme un enfant. Pas d'oublier que tout y est. Double arc-en-ciel dans la vallée, sous la cascade de notre gournier. C'est de la magie, pas de mascarade.
Bienvenue dans le Vercors. Ici on résiste encore. On chantera toujours plus fort pour nos montagnes et ses trésors. Cachés dans les contreforts, la rivière, la faune et la flore. Façonne un décor qui te fera perdre le nord. Nous c'est le Vercors. On plante le décor. Encore et encore. Vercors hardcore. Nous c'est le Vercors. On plante le décor. Encore et encore. Vercors hardcore.
C'était le Vercors de Théo Didier dans l'Agité du local sur l'autre radio. On est mercredi et aujourd'hui c'est la chronique de l'UFC Que Choisir de la Mayenne.
Du FC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, l'UFC Que Choisir, votre association de défense des consommateurs, propose des réunions d'information pour alerter sur les risques d'arnaque.
C'est en effet l'une des missions des associations UFC Que Choisir, avec le Conseil et la défense des consommateurs. Il y a 30 ou 40 ans, l'arnaque provenait surtout des démarcheurs à domicile, les VRP pour vendeurs représentants placiers, terme complètement désuet aujourd'hui. Les moyens pour prendre contact avec un éventuel acheteur se sont multipliés avec la conjugaison d'un outil, le smartphone, et d'une technologie, l'informatique et les fameux algorithmes qui permettent d'agréger un ensemble d'informations sur l'utilisateur du smartphone et lui envoyer des propositions correspondant à ce que l'on appelle son « profil ». Rappelons que les algorithmes sont des programmes informatiques qui permettent de regrouper toutes les informations disponibles sur Internet sur nous et en déduire nos habitudes, nos préférences et enfin nous suggérer des achats correspondant à ces caractéristiques. À première vue, recevoir des propositions sur ce qui correspond à nos goûts paraît intéressant, la machine faisant donc le tri pour nous. Mais l'objectif est de nous faire acheter quelque chose dont on n'avait pas pensé faire l'achat, si on n'y avait pas pensé. En a-t-on besoin ? Il n'y a plus besoin d'humains pour nous solliciter. Des robots programment les appels téléphoniques ou les envois de publicité. Et les humains, dans les plateformes téléphoniques, ne reprennent la main qu'à coup sûr.
C'est pour cela que l'on reçoit plusieurs fois par jour des appels sans personne pour nous répondre.
Eh oui, le pari est que sur des milliers de sollicitations, il y aura suffisamment de réponses positives pour amortir les frais. Tant qu'il ne s'agit que de nous vendre des objets du quotidien, il n'y a pas trop de mal. Malheureusement, des personnes mal intentionnées se sont appropriées la technologie pour arnaquer, en d'autres termes pour voler, celui qui les écoutera. Et plus ils ont d'informations sur l'interlocuteur, plus facilement ils sauront le mettre en confiance. Ce sont les manipulateurs.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Qui n'a pas reçu sur son smartphone un SMS le prévenant qu'un colis était en instance de livraison, alors que l'on n'attend rien, que l'on avait été verbalisé et qu'il fallait d'urgence payer l'amende, faute de quoi elle serait majorée, ou un email vous convoquant la gendarmerie, un autre vous informant que votre agence de location de votre logement avait changé de coordonnées bancaires, et bien sûr, l'appel du faux conseiller bancaire vous informant qu'une opération frauduleuse est en cours sur votre compte.
Quelles précautions faut-il prendre alors ?
Tout d'abord, ne pas répondre aux appels téléphoniques provenant d'inconnus. Si c'est sérieux, la personne laissera un message, ni aux SMS, ni aux emails, et surtout, ne pas valider un lien. Un virus est caché dedans, qui permettra à l'auteur du mail de reprendre la main sur votre ordinateur ou votre smartphone. La saisie d'un code n'a jamais arrêté une opération, mais valide un nouveau destinataire de virement. Suivre les recommandations de sa banque. Elle ne vous demandera jamais des informations confidentielles. Suivre aussi les conseils de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, en ce qui concerne la création et la sauvegarde des mots de passe. Et en cas de besoin, prendre contact avec vos interlocuteurs officiels, avec les numéros que vous connaissez. Enfin, moins vous en direz sur vous, moins ils en sauront sur vous. Ayez à l'esprit que vous ne savez jamais qui est derrière un téléphone ou un ordinateur. On ne donne pas d'informations confidentielles à une personne masquée.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour ce rappel des précautions à prendre. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. Si l'on veut en savoir plus ou si l'on souhaite une aide pour un litige, pourriez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufckechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, à Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel ou vous proposer vos services. Pour animer des réunions d'information sur ces sujets de consommation, nous recherchons des bénévoles pouvant y consacrer quelques jours par an. À bientôt.
Merci Jean-Michel. La JT du local, c'est terminé pour aujourd'hui. À 19h, vous écouterez l'émission Novorama, riche en chroniques et interviews de groupes ou artistes émergents. L'émission sera suivie à 20h de The Voice of Cassandre pour le plaisir d'écouter des playlists de différents artistes et bien sûr, pour terminer la soirée d'éclectique, Jazz prend l'antenne à 21h avec en invité François Tuillier, tubiste. La JT du local revient demain, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Lucie, que vous commencez à connaître. Je rends l'antenne, prenez soin de vous et bien sûr, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.